live@rocket.com, soit MSN, soit Skype, c'est la façon de nous joindre. On a le Père Samuel et Joanne Bourlard qui sont avec nous ce matin. Bonjour à vous deux.
Bonjour Ismaël.
Alors, je vous laisse débuter tout de suite. Vous avez un sujet bien précis que vous avez fait part sur le libertyvox.com, Joanne Bourlard.
Oui, exactement.
Oui, alors
donc,
je vous écoute.
Le sujet dont nous voulions parler aujourd'hui est un sujet qui date du 7e siècle, mais qui est toujours d'actualité. Je vous explique. On va parler des quatre premiers califes de l'Empire musulman. Les califes sont les successeurs de Mahomet, le prophète fondateur de l'islam. Et on va voir que la politique qu'ils ont menée durant les premières décennies de l'islam va avoir des conséquences politiques et religieuses jusqu'à aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous dire un mot de ce qui s'est passé le vendredi 16 mai au tribunal correctionnel de Charleroi, la première audience durant laquelle le père Samuel a été amené à s'expliquer sur les propos qu'on lui reproche. Puisque, étant donné que le père a osé critiquer l'islam, certains ont cru bon d'introduire contre lui une plainte pour racisme, comme si l'islam était une race.
Oui, donc, exactement.
Pendant une heure et quart, le père Samuel a pu exprimer sa pensée, a pu préciser sa pensée. La juge qui l'interrogeait avec intérêt, une très grande curiosité. Elle voulait vraiment savoir de quoi il s'agissait. Et le père a très bien réussi à exprimer sa pensée. Et je crois que ça aura une influence positive sur les audiences qui vont suivre.
Vous croyez ?
Voilà, la prochaine audience, c'est vendredi prochain, 30 mai. On verra comment se débrouillent les avocats. D'abord, l'avocat de la partie adverse, du Centre pour l'égalité des chances, qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Et ensuite viendront les avocats du père qui vont prendre tour à tour la parole.
Ah,
voilà.
Ok, d'accord.
Comme ça, les auditeurs de Rockix sont au courant un peu de l'évolution des choses.
Mais,
jusqu'à présent, ça se présente bien.
Mais dites-moi, Joanne, j'étais convaincu que le père ne pouvait pas être représenté par des avocats, à moins que j'ai mal saisi l'information qu'on m'avait transmise.
Non, mais, il a des avocats, mais le tribunal a refusé l'audition de témoins et d'experts.
Ah, d'accord. Voilà. Ok.
Voilà.
Alors, mais est-ce que par contre, j'imagine que les avocats en question du père Samuel vont tout de même approcher des experts pour être en mesure de bien défendre les propos du père Samuel qui, ma foi, sont naïfs d'une certaine façon et d'une autre, absolument pas méchantes ou vicieuses dans quoi que ce soit. Parce que peut-être que je peux demander au père Samuel dès maintenant de nous répéter, s'il le veut bien, les propos. Hein, les propos qu'il a tenus face à l'islam, père Samuel, s'il vous plaît.
Bien, l'avocat adverse et le Centre d'égalité des chances m'accusaient comme quoi, il y a 6 ans, j'ai dit, chaque enfant musulman bien islamisé, sont des bombes à retardement contre les enfants européens. Effectivement, j'ai développé ça, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé en Amérique, avant l'invasion de l'Irak, ce qui s'est passé à Londres en 2005, plusieurs personnes ont été bombardées par quatre musulmans qui sont nés à Londres. Ils étaient des Pakistanais. Ils étaient vraiment des bombes à retardement. Encore 4 personnes. En Espagne, ils ont bombardé les trains. Presque 200 personnes sont mortes et des milliers de blessés. Et en même temps, un Marocain en Hollande, il est né à Londres. En Hollande, il était vraiment bombe à retardement. Il a égorgé un artiste, Theo van Gogh. Alors, j'explique un petit peu aussi. Il m'accusait comme quoi j'ai dit les Arabes musulmans sont des barbares, sont des sauvages. Ce n'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est un savant musulman, Ibn al-Khaldun, mort en 1406 après Jésus-Christ, et c'est lui qui a décrypté les Arabes musulmans sauvages, barbares, Alors, il m'accusait aussi, comme quoi j'ai dit Mahomet, c'est un guerrier, chef de guerre, guerrier en sanguinaire. Effectivement, j'ai dit, oui, Mahomet, il a égorgé 900 juifs. Il a dit lui-même, je suis un prophète du carnage, un rieur sanglant. Alors, il m'accusait, comme quoi j'ai dit, les Européens et les Arabes musulmans n'ont pas les mêmes civilisations, n'ont pas les mêmes cimetières, n'ont pas les mêmes nourritures. Alors, tout différencie. Alors, il m'accusait de tout cela. Donc, j'ai répondu du tac au tac, finalement, ce n'était pas mon tour, c'est mes avocats ou l'avocat adverse et le procureur du roi devraient parler. Mais on va voir le 30 mai qui va parler et le 13 juin, c'est moi qui vais encore prendre la parole pendant 3 heures, si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie. Amen.
Père Samuel, comment s'est passé, comment s'est déroulée votre intervention, enfin votre visite à ce tribunal? Comment vous vous êtes senti? Comment expliquez-nous, racontez-nous.
Eh bien, il y avait beaucoup de monde avec moi. Il y avait presque 300-350 personnes avec moi. C'était très musclé. Le procureur du roi était absolument étonné. Lui-même a dit, oui, nous savons, l'islam, c'est inquiétant. Même le procureur du roi qui était contre moi, l'islam, effectivement, c'est inquiétant, on sait. Et alors, l'avocat adverse, il était complètement bouche bée. Et la magistrate, la madame la juge, voulait absolument savoir, au fond, qu'est-ce que c'est l'islam, de quoi il s'agit. Ben, j'ai dit, écoutez, on commence par Mahomet. Alors, j'ai dit, s'il n'avait pas Mahomet, c'est en arabe, le Coran est en arabe, il n'y aurait pas d'islam. Quand nous disons arabo-musulman, c'est comme nous disons les judéo-chrétiens. Alors, Mahomet est mort en 632. Avant sa mort, il a maudit les juifs et les chrétiens. Il a massacré 900 juifs. Il a fait 66 guerres. Il avait 15 femmes. Deuxième femme s'appelait Aïcha. Il a dévirginisé quand elle avait 9 ans. Et comme ça, j'ai expliqué de quoi il s'agit. Oui, effectivement, Mahomet était chef de guerre, guerrier lui-même. On ne peut pas nier. Et c'est comme ça, il m'accusait des choses vraiment ridicules, absurdes. Alors il dit, vous avez dit, si les Européens savaient qu'est-ce que c'est l'islam, ils n'accepteraient même pas une famille. J'ai dit, peut-être ce temps-là, oui, j'ai dit ça, mais maintenant, on ne peut pas dire ça. Et à la fin, ils m'ont obligé de dire, oui, j'ai dit, une famille, c'est de trop. Pourquoi? Parce que, finalement, les grandes choses sont composées de petites choses. Je lui ai dit, pendant la guerre civile, s'il y a une guerre civile, et il y aura une guerre civile un jour, ce qui s'est passé au Kosovo, en Serbie, à Bosnie, en Irak, à Chypre, en Palestine, ça va passer absolument ici, mais l'islam n'est pas pressé. Oui, pendant une guerre civile, effectivement, ils m'ont posé la question, islam modéré, islam terroriste, islam progressiste. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas d'islam modéré, il y a l'islam tout court. Quand les terroristes musulmans massacrent les Européens, ils disent Allahu Akbar, Dieu est grand. Quand les bons musulmans qui ont accouché les terroristes, quand ils prient, ils disent la même chose, Allahu Akbar. Quand ils prient, ils disent Allahu Akbar. Donc, il n'y a pas musulman modéré, musulman vraiment modéré ou musulman agressif. Il y a l'islam tout court, absolument. Parce que les modérés, les progressistes, les intégristes, les islamistes ont le même Mahomet comme prophète. Comme le même Coran, c'est le Coran, livre sacré des musulmans, oui. Et il applique, j'ai dit, moi, j'accuse les textes fondateurs de l'islam qu'il appelle au meurtre, au crime et à l'assassinat. Ces textes fondateurs, le Coran et la biographie de Mahomet et les hadiths, les paroles de Mahomet, devraient être absolument interdits et donnés aux tribunaux. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'on fait ici, madame la juge? Moi, oui. Je vois ici absolument... notre place n'est pas ici, mais la dame la juge écoutait absolument très très attentivement.
Est-ce que vous avez senti, je sais bien que ça doit être, je sais bien que ça doit être quand même complexe, on peut pas non plus donner déjà, enfin de voir poindre à l'horizon peut-être, oui des résultats, mais voir poindre à l'horizon le bénéfice du doute sur ce que vous avez dit, mais est-ce que vous avez senti que la juge saisissait un peu plus le dossier? Et comprenait davantage que ce n'était pas des propos racistes, bien au contraire, ce que vous teniez.
Non, toute ma vie, j'ai dénoncé le racisme. Toute ma vie, j'ai dénoncé la haine des textes fondateurs des musulmans. C'est un procès voulu, on dirait. C'est un procès voulu préparé minutieusement, sans rien brusquer, parce que je suis prêtre, parce que je suis catholique, parce que j'ai mes habits religieux, j'ai la barbe, j'ai le chapeau, j'ai la soutane, et ça les dérange. Si c'est un procès voulu, et je crois, oui, c'est voulu, ils sont capables de nous condamner. Si ce n'est pas voulu, eh bien, par la grâce de Dieu, nous allons être vainqueurs absolument.
D'accord. On tient à vous féliciter, Père Samuel, de la part de plusieurs auditeurs qui nous écoutent en ce moment là, sur le live@rocket.com. Félicitations à vous pour votre discours devant le radio tribunal. Et ce n'est pas, on nous glisse aussi à l'oreille que ce n'est pas le père qui doit être accusé au tribunal pour propos racistes. C'est le Coran qui doit être jugé pour propos racistes. Et c'est ce que vous avez dit dans le fond.
Absolument, parce que le Coran vraiment appelle au meurtre, au crime, assassinat. J'ai cité plusieurs versets. Par exemple, j'ai dit, l'islam a trois ennemis. Les athées, par exemple, dans le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 9, verset 29, tuez les athées partout où vous les trouverez. En ce qui concerne les juifs, par exemple, chapitre 33, verset 61, tuez-les impitoyablement. En ce qui concerne les chrétiens, si quelqu'un croit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, sont des infidèles, massacrez-les là où vous les trouverez, chapitre 47, verset 4. Donc, j'ai expliqué tout cela, j'ai dit, c'est ça, devrait être interdit, appel au meurtre. Si quelqu'un avait écrit ce livre, ces livres seraient absolument interdits. Alors, pourquoi on ne peut pas interdire le Coran, livre sacré des musulmans, qui a dedans presque 300 versets, donc dans le Coran, livre sacré des musulmans, appel au meurtre, au crime et à l'assassinat. Je crois que nous devons dénoncer tout cela. Toute ma vie, j'ai dénoncé la haine, je n'ai jamais prêché la haine raciale ou le racisme, ce n'est pas mon style, absolument pas. De toute façon, nous autres, orientaux, moi je suis né en Orient, tous nos ancêtres ont été massacrés par l'islam, toutes nos églises ont été démolies et saccagées par l'islam, les femmes chrétiennes ont été violées sur les chemins, absolument, ils ramassaient les chrétiens, ils les mettaient dans les puits, ils les brûlaient dans les puits, absolument, parce que chrétiens, parce que catholiques, parce que non musulmans. Et j'ai dit, j'ai une mission d'avertir aux Européens, mes amis aux Européens, attention, si vous avez 10 millions de bouddhistes, japonais, chinois, congolais, polonais, espagnols, pas de problème, mais l'islam va être un problème majeur des Européens, non seulement des Européens, même du monde entier. L'islam, c'est un fléau, absolument. On ne peut pas nier, vraiment. Donc, il n'y a pas d'islam modéré, d'islam progressiste, il y a l'islam tout court. Tous les musulmans ne peuvent pas aller, par exemple, à New York, bombarder New York. Tous les musulmans ne peuvent pas aller à Londres, bombarder le métro. Tous les musulmans ne peuvent pas aller en Espagne, bombarder les trains. Tous les musulmans ne peuvent pas aller en Hollande, massacrer, égorger un artiste, Théo Van Gogh. Bien sûr, les autres musulmans, les soi-disant modérés, ils sont des attentistes. Ils attendent le moment. S'il y a une guerre civile, alors là, les bons musulmans vont commencer, ça c'est sûr, et certains pour égorger les Européens. Je suis absolument convaincu.
Aujourd'hui, en ce 26 mai, 14h21 du côté de la Belgique, du côté de l'Europe, ici il est 8h21, vous voulez aborder Joanne Bourlard, secrétaire du Père Samuel, et vous, Père Samuel, vous voulez aborder les quatre califes, successeurs de Mohammed, que vous avez écrit sur le site de Liberty Vox, de l'Empire musulman et de leur politique de conquête avec ses conséquences jusqu'à nos jours. Je vous laisse commencer, Joanne Bourlard, peut-être?
Oui. Alors, à la mort de Mahomet, il faut savoir qu'aucune directive n'avait été donnée sur la manière dont la communauté musulmane naissante devait être gouvernée. Mahomet est mort sans donner de conseils, sans rien dire à personne. Donc, dès le départ, il y a eu des tensions entre les hommes forts, les compagnons de Mahomet, et le premier calife à avoir été élu, c'est Abu Bakr. Abu Bakr était un compagnon de Mahomet de longue date, il avait à peu près le même âge que lui, et à la mort de Mahomet, certains hommes influents, donc parmi les compagnons de Mahomet, l'ont élu Khalifat Rasulallah, c'est-à-dire successeur ou lieutenant de l'envoyé d'Allah, et c'est ce qui a donné le mot calife. Khalifa en français, ça a donné calife, qui veut dire donc successeur de Mahomet. Le père Abu Bakr, il faut savoir que c'était le père d'Aïcha. Aïcha, l'épouse préférée de Mahomet, une épouse qui était mariée quand elle avait 6 ans, et le mariage, comme l'a dit le père, a été consommé quand elle avait 9 ans, une petite fille de 9 ans qui était mise dans le lit de Mahomet, qui lui Donc voilà pour le calife Abu Bakr. Et concernant les conquêtes, Abu Bakr a mis vraiment a lancé les conquêtes, le mouvement des conquêtes, par une grande répression en Arabie. Il faut savoir qu'à la mort de Mahomet, les tribus qui étaient venues lui faire allégeance avaient décidé de rompre tout simplement le pacte qu'ils avaient conclu avec Mahomet. Mahomet étant mort, oui. Eh bien, ils s'estimaient déliés de leur obligation de payer un impôt. Et donc, de ce fait-là, ils ont dit « bon, ben, on ne paye plus l'impôt ». Et Abu Bakr, le calife, a dit « eh bien, je considère que si vous ne payez pas l'impôt, c'est comme si vous renonciez à l'islam. Donc, vous êtes des apostats, vous avez renié l'islam, et de ce fait-là, on doit vous faire la guerre ». Et c'est comme ça qu'il a lancé une vaste répression à travers toute l'Arabie pour réprimer ce qu'on a appelé la grande apostasie, parce qu'il y a une série impressionnante de tribus qui avaient tourné le dos et qui avaient décidé de ne plus payer l'impôt. Et de ce fait-là, une grande répression a eu lieu, et Abu Bakr, au cours de ces 2 ans de califat, a réussi à soumettre toute l'Arabie à nouveau sous le joug de l'islam. Voilà pour le premier calife. Mon père, avez-vous quelque chose à rajouter concernant...
Oui, quelques précisions au sujet d'Abu Bakr, c'est-à-dire le père de la Vierge en arabe. Le père de la Vierge de Aïcha qui a donné à Mahomet comme épouse. Il était en même temps son ami. Il était l'ami de Mahomet. Et Mahomet, lui, Osman, Omar, tous presque sont nés à la Mecque, sont morts à Médine. Ces deux villes, villes sacrées des musulmans, sont totalement, ces deux villes, interdites aux non-musulmans. Même si vous êtes roi, président, Nicolas Sarkozy, le roi des Belges, vous ne pouvez jamais entrer, même comme touriste, à la Mecque et à la Médine. Alors je me pose la question, Jean, comme historien, si Rome et Milano, Italie, était interdit aux musulmans, que diraient nos intellectuels, nos libres penseurs, nos journalistes? Une question à vous poser.
Ben oui, ce serait évidemment inacceptable. Hein. Vous imaginez que deux grandes villes soient interdites d'accès à tous ceux qui ne partagent pas une certaine opinion religieuse ou philosophique. C'est absolument inconcevable chez nous en Occident. Mais donc, en Orient, c'est ce qui se passe depuis bientôt 14 siècles. Il est toujours interdit à qui que ce soit d'entrer à la Mecque et à Médine si on n'est pas musulman.
C'est la règle. Effectivement.
Oui.
Je vous écoute.
Oui, ben,
effectivement, voilà. Abu Bakr, c'est vrai, quand Mahomet est mort, immédiatement, avec le consentement de Omar, il a dit, mais c'est vous allez devenir le successeur de Mahomet, le calife. Et il avait un commandant militaire, si vous voulez, Khalid ibn al-Walid. Alors, les croyants musulmans presque avaient apostasié, ils ne voulaient pas suivre Mahomet et Abu Bakr, comme vous avez dit. Mais alors, Mahomet a laissé dans son testament, il a dit ceci, « Tout homme qui change la religion, tuez-le. » Effectivement, Abu Bakr et ses lieutenants, ils tuaient ces pauvres Madinois parce qu'ils voulaient quitter l'islam. Donc c'est vrai, l'islam, quand on entre, on ne peut pas sortir facilement. Il est écrit même dans le Coran, chapitre 4, verset 89, chapitre 4, verset 89, « Si l'apostasie, tuez-le impitoyablement. » Voilà ce que Abu Bakr, le premier calife, a fait. Il a tué des milliers d'hommes et de femmes absolument innocents, arbitrairement, parce qu'ils ne voulaient pas rester musulmans, ils ne voulaient pas suivre Abu Bakr, ils ne voulaient pas suivre l'islam, ils ne voulaient pas suivre Mahomet, parce que c'était la terreur dès le commencement de l'islam.
Oui, donc voilà la conséquence, par exemple, une conséquence concrète du califat d'Abu Bakr, c'est que aujourd'hui encore, il est interdit à un musulman d'apostasier, parce que non seulement donc Mahomet a dit toute personne qui change de religion, tuez-le, mais en plus Abu Bakr l'a mis en pratique et a bien montré qu'il n'était pas question de renoncer au devoir imposé par l'islam, sinon le fait de renoncer à l'un ou l'autre devoir imposé par l'islam, notamment le paiement de l'aumône, la zakat. correspondait à une apostasie, et donc la personne, le musulman qui oserait faire ça, serait tout de suite l'objet d'une attaque jusqu'à ce qu'il se soumette à nouveau, ou alors s'il ne se soumet pas, eh bien c'est la mort pour lui.
Effectivement, un petit lapsus, c'est Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout juif tombe sous vos mains, tuez-le. Une petite réflexion.
Oui, les phrases se ressemblent.
Oui.
Alors, voilà pour le premier calife. Il y a ensuite eu, à la mort d'Abou Bakr, un autre homme fort parmi les compagnons de Mahomet qui s'appelle Omar en arabe. Ce Omar, il était donc également un compagnon de Mahomet. Il a été élu à la mort d'Abou Bakr, qui avait, avant de mourir, conseillé qu'on élise cet homme. Et lui, il avait une fille, Hafsa, qui est devenue l'une des épouses de Mahomet. Donc il a fait un peu comme Abou Bakr, il a donné l'une de ses filles en mariage à Mahomet. Alors sous son califat, qui a duré 10 ans, de 634 à 644, on a assisté vraiment à une explosion, je vais dire, dans l'expansion. L'expansion a vraiment été impressionnante durant ces 10 années. On a vu Omar envoyer ses généraux dans l'Empire byzantin, dans l'Empire perse. C'est ainsi qu'ils ont conquis, en l'espace de quelques années, les pays qui correspondent aujourd'hui à l'Irak, la Syrie, la Terre Sainte, Jérusalem, l'Égypte, une partie de l'Iran. Tous ces pays-là ont été conquis en l'espace de 10 ans. Et donc, il y a des épisodes durant ces conquêtes qui ont été très significatifs aussi pour la suite du développement de l'islam. Il y a notamment la conquête de l'Égypte, dont le père va nous parler, notamment la conquête d'Alexandrie et le sort réservé à la bibliothèque.
Oui, effectivement. Et effectivement, Omar était fidèle à Mahomet, et lui-même, il a institué le calendrier musulman en 622, le calendrier musulman, et il a appliqué aussi les paroles de Mahomet, quand Mahomet disait, sallallahu alayhi wa sallam, deux religions ne doivent pas coexister en Arabie Saoudite. Effectivement, disons en péninsule arabique, effectivement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de religion sauf l'islam. Sauf l'islam. Et aussi, il a appliqué les paroles de Mahomet: vous chasserez, vous expulserez les juifs et les chrétiens de Médine. Effectivement, Omar, en 640, il a chassé les juifs et les chrétiens de Médine, de l'Arabie, vers l'Irak, vers les pays, disons, l'Irak ou Syrie. Donc, jusqu'à maintenant, en Arabie, il n'y a pas d'église, pas de prêtre, pas de messe, pas de synagogue, pas de libres penseurs, uniquement l'islam, uniquement l'islam. Voilà l'indifférence, voilà l'intolérance, voilà le racisme. Donc, effectivement, Omar, il a expulsé les juifs et les chrétiens de Médine, et il a appliqué, après avoir conquis horrible, terriblement, avec des massacres, la Syrie, 635, Jérusalem, 636-38, Iran, 642, Égypte, 642. Donc il y avait aussi avec lui Amr, son commandant était Yazid ou Khalid. Ils étaient terribles, ils étaient vraiment des fléaux. Et alors, quand il a conquis tous ces pays, en disant: on va vous laisser libre, mais à une condition: vous allez payer la jizya. Et vous avez payé la jizya, c'est-à-dire selon le Coran, chapitre 9, verset 29. Vous pouvez expliquer chapitre 9, verset 29.
Ah, le chapitre 9, verset 29, c'est très important, puisque c'est celui-là qui institue le statut réservé aux populations non musulmanes vivant dans les pays conquis par l'islam. Il dit clairement que les juifs et les chrétiens, puisque c'était les populations auxquelles étaient opposés les musulmans principalement, eh bien les juifs et les chrétiens pourront conserver leur religion moyennant le paiement d'un impôt qu'on appelle la jizya. Un impôt qui devra être payé avec humiliation. Donc les musulmans, les juristes musulmans ont trouvé toute une série d'humiliations. Ils ont été très fertiles en imagination de ce côté-là. Donc par exemple, le juif ou le chrétien qui venait payer son impôt au percepteur musulman devait courber la tête, devait s'agenouiller. coup de pied. Il y avait déjà des botteurs de cul à l'époque. Et cela était chargé donc de.
Effectivement, j'ai vécu tout ça, Jean, j'ai vu tout cela avec mes yeux, vous savez.
Et oui, et c'est ça. Donc, ce qui a été institué par le Coran il y a 14 siècles a encore des répercussions aujourd'hui dans le monde musulman, car c'est imprégné dans la culture des musulmans. Et nous, occidentaux, nous imaginons difficilement que des choses imaginées il y a 14 siècles, des pratiques instaurées il y a 14 siècles puissent encore avoir cours aujourd'hui, surtout des pratiques aussi humiliantes et dégradantes. Mais ça existe encore en Orient.
Ce que je comprends pas là-dedans, M. Bourlard, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui même, au 21e siècle, qui décident de se convertir à ce genre de religion, malgré tout ce qui se passe, malgré toute l'humiliation qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui, malgré tout, décident de vouloir se convertir à ce genre de religion, alors qu'avec tout ce que vous nous avez dit depuis les derniers mois, ce n'est que soumission, ce n'est que humiliation, ce n'est qu'une pratique dangereuse, c'est de la torture, c'est tout ça. Je peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là qui, du jour au lendemain,
justement,
décident de se convertir à l'islam.
Oui, mais justement, s'ils se convertissent à l'islam, c'est parce que généralement, on ne leur dit pas tout ce que nous, le Père Samuel et moi, vous disons ici depuis plusieurs semaines maintenant. On leur fait découvrir l'islam, on leur fait découvrir le côté le plus soft de la religion musulmane, les côtés les plus compatibles avec nos valeurs en vigueur en Occident, les valeurs qui se rapprochent le plus des valeurs chrétiennes, par exemple. On cherche à montrer que Mahomet était un autre Jésus-Christ, si on veut, la version arabe du christianisme. C'est la stratégie adoptée par les recruteurs musulmans en Occident. Et il y a beaucoup d'Occidentaux qui marchent dans cette combine, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif d'une certaine spiritualité. Et comme les églises traditionnelles ne font plus leur travail et ne cherchent plus forcément à prêcher leur message, eh bien les Occidentaux, en mal de spiritualité, vont vers celui qui parle, vers celui qui milite. Et ceux qui parlent et qui militent aujourd'hui pour leur religion, ce sont avant tout les musulmans.
Donc on est en train de dire qu'on passe le charme de tout ce qui peut être bien avec la religion musulmane, sans nécessairement leur dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mauvais en retour, dans le fond.
C'est ça, voilà. On leur montre Mahomet comme un mystique, mais on ne leur dira jamais que Mahomet a conduit des dizaines d'expéditions militaires au cours de sa carrière et qu'il a ordonné aux musulmans de combattre par les armes. On ne leur dit pas ça. Non, on leur fait miroiter que Mahomet est un maître spirituel à l'image de Jésus, à l'image de Bouddha ou de n'importe quel autre fondateur de religion.
Eh bien, Jean, je peux expliquer un petit peu aussi.
Oui, je vous en prie.
Je crois, aujourd'hui, les Européens, les Canadiens, les Américains, oui, sont tombés dans l'ignorance complète spirituelle et religieuse, même historique.
Tout à fait.
Ça vient de l'ignorance absolument. Par exemple, s'il avait lu dans le Coran, chapitre 9, verset 5, « Tuez les incroyants partout où vous les trouverez. » Eh bien, ils ne devraient pas devenir musulmans. Ils pensent que l'islam, paix, amour et tolérance. Or, l'islam n'est pas ni paix, ni amour, ni tolérance. L'islam, c'est le fléau. L'islam, c'est le terrorisme. L'islam, c'est le glaive. Le fondateur de l'islam lui-même, Mahomet, a dit « Je suis un prophète du carnage et un rieur sanglant ». Donc, lui-même, il était chef de guerre, guerrier lui-même. Effectivement, tous ces pays ont été conquis, comme nous avons dit, l'Égypte, la Syrie, la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Jérusalem, le Liban, par le glaive, absolument. Après, il disait « Voilà maintenant, vous êtes des ennemis, c'est-à-dire tolérés, mais pas libres. » Quand les musulmans attaquaient les pays chrétiens et juifs, ils disaient aux citoyens « Vous avez trois conditions devant vous de vivre. Ou bien nous allons vous exterminer, c'est-à-dire faire la guerre, ou bien vous allez payer l'impôt, ou bien vous allez convertir à l'islam totalement, tout de suite, immédiatement. » Alors ces pauvres toléré mais pas libre, il payait vraiment l'impôt et il avait aussi des conditions. Voilà, par
Père
exemple,
Samuel, oui. De la part d'un auditeur, on nous dit de DV Bruxelles, justement, le père a reçu un jeune Belge converti à l'islam qui disait au père que pour convertir les musulmans, que les musulmans, dans le fond, parlaient uniquement des versets de tolérance qui ont été abrogés ensuite. Joanne Bourlard ou le père Samuel, c'est d'une certaine façon, si je peux dire, pour amadouer la nouvelle viande fraîche, si je peux dire.
Oui, effectivement, c'est une tactique de combat, hein, d'une certaine manière. C'est pour les, pour les amadouer, effectivement. On leur passe la pommade en leur servant les plus beaux versets ou ceux qui sont soi-disant les plus beaux, mais qui, dans la doctrine traditionnelle de l'islam, ont été effectivement abrogés par les versets les plus durs.
Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est une certaine forme de lavage de cerveau, du brainwash.
Je dirais que c'est du lavage de cerveau, surtout pour ceux qui sont endoctrinés dans l'islam militant, l'islam djihadiste. Disons que ceux qui sont dans le soufisme, bon, ils se bercent d'illusions, en fait. Hein. C'est un islam édulcoré, un islam aseptisé, un islam à l'eau de rose, qui n'a jamais existé que dans leur propre imagination. Et bon, bah, ils planent, quoi, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas l'islam, quoi. Ça, c'est une rêverie, tout simplement.
Eh bien oui, nous parlons du deuxième calife, Omar, qui était aussi assassiné par son esclave. Il était assassiné en 644 par son esclave. Il avait un esclave persan, il était persécuté cet esclave, et finalement il a assassiné Omar. Alors Omar, avant sa mort, il a donné, ça s'appelle le pacte d'Omar, le pacte des vimis des non-musulmans, comment doivent réagir dans la société musulmane. Je cite, « Les juifs et les chrétiens ne pouvaient jamais saluer un musulman, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire « Assalamu alaikum ». Les vimis juifs et chrétiens devaient honorer le musulman, se tenir debout en sa présence, en courbant devant lui. C'est horrible, n'est-ce pas? Troisièmement, ils avaient l'obligation d'héberger les musulmans chez eux, de les nourrir, loger, chauffer et de leur payer leur voyage. Quatrièmement, nul ne pouvait empêcher quelqu'un de venir à l'islam. C'est-à-dire, quand quelqu'un voulait devenir musulman, personne ne pouvait l'empêcher, obligatoirement devrait être converti à l'islam. Cinquièmement, les juifs et les chrétiens ne pouvaient s'habiller ni se coiffer comme les musulmans. C'était vraiment une discrimination raciale contre les vimis, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens tolérés mais pas libres. Même leurs vêtements ne ressemblaient pas aux vêtements des autres. Les musulmans devaient dire aux chrétiens, vous allez prendre une croix de 2 mètres sur vos épaules pour que nous sachions si vous êtes chrétien ou pas. Ils disaient aux juifs, vous allez mettre des cochons sur vos épaules pour que nous sachions si vous êtes juif ou pas. Voilà quelques conditions et nous allons, croyez-moi, encore continuer ces conditions contre les musulmans, c'est-à-dire, pardon, contre les juifs et les chrétiens.
On vient de se faire donner, Père Samuel et Joanne Bourlard, une nouvelle fort intéressante. Vous allez constater avec moi que ça va de pire en pire. Un adolescent, ça se passe en Angleterre, c'est un adolescent qui s'est fait demander d'enlever le drapeau, son drapeau, le drapeau de l'Angleterre, qu'il avait placé sur son véhicule. Et la police lui a dit tout simplement que c'était offensant, que c'était, je peux vous le lire en anglais, là, because it could be offensive to immigrants, okay, que ça pourrait être offensant pour les immigrants d'y avoir le drapeau. Alors le jeune homme de 18 ans qui était en train de conduire en retournant chez lui à Ingram Road in Milksham, ça s'est passé jeudi, alors Thursday dans le fond. Qui s'est fait demander de se mettre en bordure de la route par des policiers. Et dans le fond, ils faisaient une vérification et tout, et ils se sont aperçus, les policiers lui ont tout simplement demandé d'enlever son drapeau, et lui, la seule chose qu'il a mentionné, écoutez, un instant, là, c'est mon pays, it's my country, I want to show my support for my country, je veux montrer que je supporte avec que je suis avec eux. Alors, il a été obligé de, dans le fond, d'enlever. On lui a donné $30, je pense, quelque chose comme ça en sterling. Il a parce qu'il a refusé d'enlever son drapeau et il a été traité de raciste parce qu'il ne voulait pas enlever le drapeau de l'Angleterre sur son véhicule. Voilà. Je pense que c'est un autre exemple et ça date d'aujourd'hui, cette nouvelle du 24. Je veux dire dans la fin de semaine, c'est-à-dire samedi, cette nouvelle concernant ce fameux drapeau. Vous pouvez constater avec moi, dans le fond, Joanne et Père Samuel, que ça va vraiment mal. J'ai l'impression qu'il y a un mot d'ordre qui est donné et qui est envoyé par la part des gouvernements qui, tranquillement, essaient de manipuler l'opinion publique avec des histoires comme ça. Je pense que, écoutez, c'est tout à fait sain à quelque part qu'un jeune veuille supporter son pays. Qu'est-ce que vous en pensez à tous les deux?
Ben, des valeurs qui paraissaient tout à fait normales il y a encore quelques dizaines d'années sont aujourd'hui montrées du doigt et qualifiées d'offensantes pour les communautés immigrées venues dans le pays. Mais si les communautés immigrées viennent dans un pays d'accueil, ben, elles sont priées de respecter les valeurs fondamentales du pays qui les accueille. Sinon, ben, qu'elles aillent voir dans des pays qui s'accorderaient mieux avec leurs propres valeurs. Comme je le disais l'autre jour, s'il y a des musulmans en Occident qui ne se plaisent pas en Occident parce que les règles en vigueur ne leur conviennent pas, ben je leur rappelle qu'il y a 57 pays dans le monde qui sont officiellement musulmans, et donc il y a suffisamment de place pour eux là-bas, et voilà, tout simplement.
Oui, nous parlons encore du deuxième calife Omar, qui était assassiné par son esclave en 644. Il disait aux chrétiens et aux juifs, vous n'avez pas le droit que vos maisons soient plus hautes que des maisons des musulmans. Vous n'avez pas le droit de montrer vos croix. Vous n'avez pas le droit de prier dans vos églises à haute voix. Vous n'avez pas le droit de monter sur le cheval parce que vous êtes méprisés. Et si vous allez ne pas appliquer tout cela, eh bien c'est la peine de mort. Voilà la tolérance islamique dès le commencement.
Cette tolérance soi-disant qui se prolonge aujourd'hui encore. Et donc ce que vous venez donc de citer, mon père, ce sont les conditions que devaient respecter les populations soumises, les populations juives et chrétiennes dans les pays conquis par l'islam.
C'est ça, conditions, exactement.
Voilà, des conditions énumérées dans un pacte qu'on a appelé pacte d'Omar, parce que c'est sous Omar Ier qu'il aurait été introduit. En fait, la plupart des historiens et des chercheurs s'accordent sur le fait qu'il s'agit de Omar II, un calife ultérieur qui a régné entre 717 et 720. C'est lui qui a introduit le pacte, mais il faut savoir que les conditions du pacte étaient déjà en gestation, existaient déjà d'une façon implicite sous le califat de Omar. Donc, dès le départ, les mesures de ségrégation et de discrimination à l'égard des juifs et des chrétiens existaient déjà sous le calife Omar. Alors j'aimerais préciser, nous parlons donc des quatre premiers califes qui ont succédé à Mahomet. Pourquoi je parle des quatre premiers califes, qui sont donc Abu Bakr, Omar, Othman et Ali? Je parle des quatre, nous parlons des quatre parce que dans la culture musulmane, ces quatre califes sont considérés comme les bien guidés, Ar-Rashidoun. Les bien guidés, les quatre califes bien guidés. Donc après Mahomet, c'est eux qui font autorité. Donc si eux ont dit, si l'un d'eux a dit quelque chose au cours de son califat, a émis un précepte, a émis une loi, une directive, eh bien elle est respectée avec un respect presque aussi grand que si c'est Mahomet qui l'avait dit. Donc les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, sont respectés, sont vénérés presque à l'égal de Mahomet, parce que ce sont les califes Rashidoun, les bien guidés. Ça, c'est dans le monde sunnite. Donc la majorité du monde musulman, entre 80 et 90% des musulmans sont sunnites et vénèrent ces quatre califes comme de grands hommes et comme des hommes vénérables, respectables. Je vais dire demi-dieux pour essayer que vous compreniez un peu le respect qui entoure ces personnages. Évidemment, ce ne sont pas des dieux pour les musulmans. Les musulmans reconnaissent un seul dieu, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Mais je veux dire par là que ces hommes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, sont très très vénérés, et aujourd'hui encore, ils sont vraiment... C'est d'ailleurs d'or de l'islam. C'est l'âge d'or, le premier âge d'or de l'islam, cette époque à laquelle l'islam a connu une expansion fulgurante.
Johan, on me donne comme information, je n'ai jamais entendu parler de cette nouvelle. Je peux pas tout faire à la fois, mais je peux pas tout lire à la fois non plus. Mais on me dit qu'en Belgique, à Bruxelles, un enfant de 6 ans refuse que sa mère ne mette autre chose que confiture ou du chocolat sur ses tartines. Il ne veut pas de charcuterie car ses copains de 6 à 8 ans lui ont dit que c'était mal de manger cela. Est-ce que vous avez entendu parler de cette nouvelle?
Oui, j'ai entendu parler de ça. À Bruxelles, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas l'actualité en Belgique, récemment a été publié ce qu'ils appellent un baromètre du religieux. Donc, ils ont fait une enquête et ils ont essayé de déterminer le pourcentage des croyants et le pourcentage des différentes croyances en Belgique. Et pour Bruxelles, que constate-t-on ? La population bruxelloise, âgée de plus de 18 ans et plus, est à 35% musulmane.
Donc il faut. Pardon, attendez un instant là. Vous venez de dire. Ok, attendez là.
Je pense. À Bruxelles, actuellement.
À Bruxelles.
Voilà, Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe, en 2008, un habitant sur trois est musulman.
Un habitant sur trois est musulman à Bruxelles. Oui.
Un habitant sur trois de plus de 18 ans. Je ne compte pas les mineurs d'âge. Et justement, constatons dans les écoles à Bruxelles. Il y a beaucoup d'écoles à Bruxelles qui sont fréquentées par des élèves musulmans. La proportion monte à 80-90% dans certaines écoles.
Et donc, après, nos gouvernements encouragent le multiculturalisme et on s'aperçoit.
Ça veut dire une monoculture islamique, en tout cas à Bruxelles, parce que dans les jeunes générations, en dessous de 18 ans, les populations en âge d'être scolarisées, on constate que les classes sont peuplées d'une majorité de musulmans, ce qui fait que les quelques non-musulmans qui restent dans les classes sont bien évidemment influencés par l'idée dominante qui est, par exemple, de ne pas manger de porc, puisque les musulmans ne mangent pas de porc. Donc, il est interdit... Enfin, les élèves s'interdisent eux-mêmes, les élèves non-musulmans s'interdisent eux-mêmes la consommation de certains aliments, puisqu'ils vivent au milieu des musulmans. Donc, ils sont entraînés par l'effet de groupe, l'effet de masse. Ils sont noyés dans la masse. Et c'est ça qui est inquiétant pour l'avenir, parce que ce baromètre du religieux dont je vous parle prédit que d'ici 20 ans, la population âgée de 18 ans et plus à Bruxelles sera en majorité musulmane. Les musulmans auront atteint la majorité de la population d'ici 20 ans à Bruxelles.
Donc, on me pose des questions via le live@rocket.com à vous et au Père Samuel, Johan. Les sunnites reconnaissent les quatre premiers califes comme vous, Johan, vient de le mentionner, mais les chiites ne reconnaissent que Ali. Que pense le Père Samuel de cette rivalité quand on sait que les chiites ont déjà, dans le passé, attaqué la Mecque?
Effectivement, les chiites ne reconnaissent pas ni Abu Bakr, ils considèrent Abu Bakr un criminel, les chiites considèrent Omar comme un bandit, et les chiites considèrent Osman vraiment comme un terroriste. Donc, mais les sunnites reconnaissent les quatre califes, par contre, les chiites ne reconnaissent absolument pas les trois premiers califes, seulement Ali, parce que normalement, le califat devrait être de la famille de Ali parce qu'il était le cousin de Mahomet et en même temps son gendre. Donc les chiites disent les sunnites ont usurpé le califat de nous autres de la civilisation de Ali. Donc Ali devrait être vraiment calife. Et à la fin, ils ont tué même Ali en 660-61 et aussi Osman, le troisième calife, il était aussi lapidé par la foule à Médine. Et tant pis, tant mieux, bien sûr. Tout à l'heure, vous disiez le Dieu unique des musulmans. Nous, les chrétiens, on ne peut pas reconnaître le Dieu des musulmans comme notre Dieu, parce que le Dieu des musulmans, unique ou pas, pour nous, c'est un idole. Absolument, c'est un idole, parce qu'il nie tout ce que nous avons comme chrétiens. La très sainte Trinité, la divinité de Christ, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Alors, de grâce, le Dieu des musulmans, ce n'est pas vraiment notre Dieu, le Dieu Et un idole, on ne peut jamais reconnaître comme notre Dieu, parce que si nous reconnaissons le Dieu des musulmans notre Dieu, le christianisme ne peut pas exister.
C'est vrai, sur le plan théologique, il y a vraiment une impasse entre chrétiens et musulmans. Il y a quelque chose qui coince, qui bloque là, et on ne peut pas évidemment parler parce que c'est une question qui dérange puisqu'elle divise. Alors, mais pour en revenir au calife, donc effectivement, les chiites prétendent que la succession des califes doit se faire uniquement dans la lignée de Ali. Donc Ali a eu deux fils, Hassan et Hussein, et de là sont sortis toute une série de chefs de communauté, mais que les chiites n'appellent pas calife. Les chiites, leur chef de communauté, ils l'appellent imam. Dans l'islam sunnite, imam, c'est celui qui dirige la prière à la mosquée. Chez les chiites, l'imam, c'est le chef de la communauté, c'est celui, le successeur de Ali, enfin le successeur de Mahomet, dans la lignée de Ali. Et donc ça c'est pour les chiites, qui sont entre 10 et 15% dans le monde musulman aujourd'hui. Tandis que pour les sunnites, le califat est transmis par élection. Donc Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont été élus. Et ensuite est venue une dynastie. La première dynastie de califes musulmans, c'est les Omeyyades, fondée par Muawiyah. Et à partir de là, le califat est devenu héréditaire chez les sunnites. Mais héréditaire, mais pas dans la lignée de Ali, bien évidemment, pas non plus dans la lignée de Mahomet, mais dans une lignée de Umayya, donc un descendant, un ascendant, un ancêtre de Mahomet et de un ancêtre commun de Muawiyah et de Mahomet. Voilà la grande différence. Mais de toute façon, s'il y a différence entre les sunnites et les chiites, qui parfois peuvent se détester jusqu'à se tuer, puisqu'on l'a vu dès les premiers temps de l'islam, il y a eu de rudes batailles entre les musulmans pour savoir lequel d'entre eux allait gouverner. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la fitnat al-kubra, donc la grande discorde, donc la grande division qui est née entre sunnites et chiites. Même si parfois ils se détestent donc jusqu'à la mort, ils vénèrent tous le même prophète Mahomet et lisent tous le même Coran, qu'ils considèrent comme un livre sacré. Et donc c'est là que réside le problème pour, par exemple, les minorités qui vivent dans ces pays, et les minorités non musulmanes qui vivent dans ces pays et qui n'ont pas forcément voix au chapitre, parce que justement...
Donc pour tout le monde, nous parlons maintenant du troisième calife, Osman ibn Affan. Il a été assassiné aussi à Médine en 656. Il a épousé aussi deux filles de Mahomet. Et il a mis l'ordre, le Coran, l'ordre dans le Coran, et tout ce qui était dérangeant, aussi tout ce qui était criminel, il a brûlé les feuilles du Coran et il a dit « Voilà, le Coran, c'est pour vous ». Donc, il a été lui aussi assassiné en 656.
Oui, nous alors, parlons je vous écoute. Je tiens à mon père à assister sur la compilation du Coran. Il est vrai qu'au départ, quand Mahomet est mort, le Coran, en tant que livre, n'existait pas. Les versets du Coran avaient été mémorisés par les différents compagnons de Mahomet. Certains versets avaient même été retranscrits sur des supports un peu divers, comme de la pierre, des feuilles de palmier ou je ne sais quoi. Mais donc, il n'y avait pas de Coran au sens de livre. Donc, c'est le calife Othman, le troisième, qui a décidé, quand il a vu que les compagnons de Mahomet disparaissaient les uns après les autres au cours des batailles, il s'est dit, il va falloir mettre tout par écrit, parce que sinon, une fois les compagnons disparus, tous les versets du Coran vont être oubliés et on ne saura plus ce qui a été dit. Donc, ce qu'il a fait, il a demandé à des secrétaires de rassembler tous les versets qu'il pouvait trouver et de les compiler. Et lui, Othman, une fois la compilation réalisée, a décidé que tout ce qui avait été retranscrit avant qu'il ne prenne cette décision, tout ce qui avait été retranscrit avant devait être brûlé. Et seule sa version à lui devait être diffusée aux quatre coins de l'Empire musulman. Donc le Coran qu'on peut lire aujourd'hui, il est uniforme pour tous les musulmans et cette uniformité est due au calife Othman le troisième.
Johan, comme historien, après l'assassinat de Othman 656, qu'est-ce qui s'est passé entre les partisans de Ali et des Omeyyades et de Muawiyah?
C'est dans la mort de Othman que se passe donc ce que j'ai dit. Là, j'ai évoqué la grande fitna, la grande discorde entre les partisans, Ali ayant été élu calife à la mort de Othman, certains se sont opposés à lui, dont le gouverneur de Syrie, Muawiya, et qui a fini par avoir raison, puisque après avoir conclu un accord avec Ali, il s'est lui-même proclamé calife, Muawiya, et a fondé donc cette dynastie omeyyade qui est reconnue par les sunnites, mais pas par les
chiites. Et le cinquième calife qui était, le cinquième? Alors, c'est Hassan, le fils de Ali.
Alors du côté chiite, il y a donc Ali, et le premier de ses fils est donc Hassan. Hassan qui n'était pas très combatif et qui a revendu son droit au califat à Muawiya. Muawiya l'a grassement récompensé, il lui a payé une somme assez conséquente, ce qui fait que Al-Hassan a pu vivre de ses rentes le reste de ses jours, et il est d'ailleurs connu pour avoir épousé des dizaines de femmes, plus d'une centaine même.
100 fois divorcé.
Voilà, il est connu sous le nom on lui a donné le surnom de divorceur, le divorceur, parce qu'il était connu pour se marier et divorcer à la vitesse VV prime.
Et Joanne donc, le père Samuel, je m'excuse de vous interrompre, peut-être une dernière question en terminant. Nous, l'émission tire déjà à sa fin. Et de la part d'un auditeur, sunnites et chiites resteront-ils frères ennemis? Nous demande-t-on, vont-ils constituer à l'avenir une grande puissance islamique? Et l'un va-t-il vouloir supprimer l'autre? À tour de rôle, Père Samuel, Joanne Bourlard, en terminant.
Moi, je crois que sunnites et chiites sont divisés depuis tellement longtemps que la rupture le fossé ne se comblera jamais. Il y aura toujours une division entre sunnites et chiites.
À mon avis, il y aura deux califes dans le futur, un chiite et un sunnite. Et le calife sunnite, certainement, sa place est à Bruxelles. Et le calife chiite, certainement, c'est en Iran. Ça, je vois comme voyant, eh bien, je vois ça dans le futur. C'est pour emmerder les Européens, ils vont fonder un califat à Bruxelles, au capital de l'Europe et des Européens et de Bruxelles. Oui, certainement, ils seront ennemis pour toujours. Heureusement.
Voilà. C'était la réponse à la dernière question, Ismaël. Avez-vous d'autres questions?
Non, pour aujourd'hui, on se reparle lundi prochain, c'est possible, sans problème?
Lundi prochain, sans faute, oui, pas de problème.
Oui, tout à fait. Merci à vous, Père Samuel. Je vous remercie beaucoup. Restez fort et debout. J'irai vous rencontrer le 13 de juin. On fera une émission spéciale de là-bas. Joanne Bourlard, même chose. Je vous embrasse. C'est amitié, bien sûr. On va travailler justement ensemble afin qu'on puisse dénoncer le tout avec la station de radio Rocket.com et vous et le Liberty Box. Je vous remercie à vous deux.
Merci à tous.
Au revoir. Bonne journée.
Au revoir. À bientôt.
Chris, ça a été haut en couleur aujourd'hui, il n'y a pas à dire.
C'est très bien été, oui.
Oui, franchement, là.
On parle de la population.